félicitations à ces garçons, justement, 4 buts à 3 lors du 8e de finale. On revient avec vous, messieurs, avec Brice et Serge. On vous écoute. Vas-y, Ryan.
Il y a Jules Koundé qui tweet, là, et qui a tweeté il y a même pas une heure, qui tweet, il y a des équipes, leur saison, elle a commencé mi-juillet 2024, on est le 4 juillet 2025 et ils jouent encore. Ce qui est fou, c'est qu'effectivement, ils soulèvent effectivement le point de, ça fait un an que les joueurs jouent non-stop entre les JO l'année dernière et c'est vrai que là, c'est assez flagrant. Donc je pense que les joueurs vont commencer à se réveiller petit à petit. Nous, Français, en tout cas, ils sont en train de soulever cette situation qui
attention,
est...
Attention, il y a des grèves qui vont être posées après.
Ah, j'ai peur qu'effectivement, ça parte assez loin cette histoire.
À cause de toi, encore une fois. C'est ça, Ryan. Tu vas leur donner l'idée, tu verras. Ça va signaler, ça va poser des préavis de grève. C'est ça, Serge.
Ce serait ça.
On l'écoute.
Après, juste, j'aimerais revenir sur ce qui a été dit juste avant. Moi, quand j'ai fait ma formation de préparateur physique, de coach sportif, on est allé au Krebs. Et on a été amené à échanger avec notamment des judokas et des gymnastes. Et notre formateur à l'époque, il nous a dit, OK, selon vous, est-ce qu'un sportif de haut niveau est forcément en bonne santé? Réponse un peu naïve, beaucoup pensaient que oui. Parce que tu fais du sport, parce que tu as haut niveau, etc., etc. Il s'avère que la plupart du temps, non. Parce que plus tu vas chercher la performance, plus tu vas aller haut, plus tu vas demander à ton corps, et moins ton corps va répondre en fait à ça. Au bout d'un moment, tu vas... Il y en a qui, notamment des gymnastes, qui seront retrouvés avec des coccyx déplacés, capables de te faire le grand écart, mais une hanche qui ne peut plus se remettre en place, notamment. Donc plein de petits aspects comme ça, qui une fois que ta carrière est terminée, ça tient dans la vie de tous les jours. On en parlait un peu tout à l'heure avec Baptiste Toutain notamment, etc.
Ouais.
Donc il y a ce côté-là aussi. Le haut niveau ne veut pas forcément dire bonne santé, encore plus quand on demande à ces joueurs-là de tirer à chaque fois sur la corde aussi bien physique que mentale.
Le sport est cruel.
Le sport est cruel,
c'est qu'en fait, nous, tout ce que l'on voit et tout ce que l'on attend, c'est la lumière. Mais comme tu l'as dit, même un sportif de haut niveau qui réalise une carrière, l'après-carrière, au-delà des blessures, est souvent extrêmement compliqué et très sombre pour la plupart. Mmh. Et qui retourne un petit peu dans cet anonymat qui, au niveau mental, a un impact terrible. Mais ce que tu dis ne m'étonne même pas.
C'est pas un phénomène qui est très récent aussi. C'est des saisons extrêmement longues comme ça ont déjà existé dans l'histoire. Le record actuellement, c'est Julian Alvarez, si je me trompe pas, de 75 matchs sur la saison 2023-2024. Mais juste derrière lui, aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est Dirk Kuyt avec 69 matchs en 2009-2010. Mais ça j'ai essayé de chercher, il n'y avait pas de 47 compétitions à cette période-là non plus. Mais on n'est pas loin du record.
T'avais la Ligue des Champions où t'avais premier tour avec des poules et t'avais un second tour avec des poules aussi.
Juste après une année de Coupe du Monde sur cet été 2010 aussi. Donc je pense qu'on était dans un espèce d'alignement des planètes comme sur cet été-là aussi.
Après, juste pour revenir sur Dirk Kuyt, très très bon joueur qui se blessait très 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 rarement.
Bien sûr.
Capable d'enchaîner.
Bien sûr. Mais le nombre de joueurs qui enchaînent, parce que on a ce truc sur une saison complète, on peut faire 75 matchs, techniquement. Mais est-ce que tous les joueurs font ces 75 matchs-là déjà? Donc, pas tous, c'est juste après. D'ailleurs, Dirk Kuyt, dans le classement, on peut retrouver Messi à 57 matchs en 2012. Donc on a des joueurs qui ont déjà été exposés à ce genre de saison là. Messi évidemment c'est un exemple un peu plus flagrant parce que il se retrouve 4 fois dans le classement des 10 joueurs qui ont joué le plus de matchs parce qu'il a une compétition qui s'appelle la Copa América qui se joue tous les 3 mois. Donc évidemment qu'il peut avoir des saisons à 57, 60 matchs. Là n'est pas le débat. Le débat il est dans et c'est là où je rejoins Brice. Pourquoi est-ce qu'il y a encore la Coupe du Monde, la Coupe intercontinentale?
C'est ça.
Pourquoi est-ce que la Ligue des Nations et pourquoi Brice se rejoint? On peut plus préparer nos matchs. Les matchs qui remplaçaient la Ligue des Nations étaient des matchs amicaux où tu pouvais tester tes joueurs, tester des systèmes de jeu. Là, tu es obligé de jouer totalement sérieusement avec des 11 types systématiquement. Il est là le problème, c'est qu'on rend les compétitions un peu trop sérieuses. Ce que je trouve un peu paradoxal, c'est de la part de la FIFA et de l'UEFA, c'est d'avoir sorti un espèce de speech exceptionnel de sauveur du football contre la Super League de Florentino Pérez et compagnie. Alors que de l'autre côté, ils font exactement la même chose, mais au détriment des grands clubs et des petits clubs, parce qu'on était inquiet avec la Super League que les petits clubs soient exclus du marché financier, de l'écosystème financier. Là en l'occurrence ils sont exclus aussi. aussi parce qu'ils peuvent pas participer sur une saison entière. Ouais. Ils ont pas les moyens d'avoir un effectif qui arrive en Coupe du Monde des clubs. Mais en plus de ça, ils ont pas les moyens de tenir sur toute une saison. C'est catastrophique de bout en bout. Je sais pas où est-ce qu'on va aller, mais c'est pas quelque chose de récent. On a toujours eu des saisons comme ça. Là, en l'occurrence, c'est un peu plus visible parce qu'on voit les compétitions de nous-mêmes, quoi.
Brice.
Je vais tirer le fil.
Alors, on t'écoute.
Par rapport à ce que tu dis, c'est hyper intéressant parce que je pense que c'est vraiment le point central. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a déjà eu des saisons. On se souvient à l'époque, les Bleus, les joueurs comme Patrick Vieira et autres, ils avaient fait, je crois, plus de 60 matchs.
Après,
ça dépend. Voilà, ça dépend. Ouais. Effectivement, c'était une compétition qui est avant tout ça. Notamment, il y avait avant aussi la Coupe des Confédérations, ce genre de choses qui pouvait aussi peser.
Ouais.
En revanche, la différence qu'il y avait, c'est que là, à partir du moment où t'as beaucoup de compétitions. Les gros clubs, qui ont aussi, donc en fait, il y a un prize money qui est hyper important. Les gros clubs, en fait, qui sont déjà les plus riches, ils vont concentrer les plus gros effectifs. Ils vont doubler les effectifs. On prend par exemple City, le PSG à un degré moins. Le PSG, je pense, à un effectif un peu moins étoffé d'un point de vue quantitatif. Mais en fait, ils vont avoir des super effectifs. Derrière, ça va faire quoi? Ça fait un cercle vertueux pour eux, parce qu'après, donc, c'est les équipes qui vont gagner des compètes et autres. Et là où il y a un problème,
alors,
si on reprend tout à l'heure ce qu'on disait sur le fait
qu'on
a une lassitude par rapport au foot, qu'est-ce qui fait l'essence de la compétition?
Alors,
c'est l'incertitude. Mais si tu sais, avant le début de saison, qui va gagner et que t'as qu'une poignée d'équipes qui peut gagner, ça pose problème.
Bien
et
sûr.
Là, le problème, c'est que en fait, on a que très peu d'équipes qui peuvent prétendre au plus gros trophée.
Ouais.
Prenez avant la première ligue, le Calcio, ou même l'Espagne. Tout le monde pouvait pas, tout le monde. T'avais la Corogne, t'avais Valence,
la
Real,
ça avait
des surprises. Le Barça,
le Calcio, ça avait au moins 10 équipes.
T'as 2 équipes et demie. T'as le Cholo et Atletico aussi, ils sont bien lunés. Une fois tous les 10 ans, ils peuvent la gagner, sinon c'est Barça ou Real.
Ouais.
En Angleterre, encore, t'as un peu de compétition. Mais finalement, depuis 7 ans, c'est qui? C'est
City ou Liverpool.
City ou Liverpool.
City ou Liverpool, ouais.
L'Allemagne, n'en parlons pas, c'est une Premier League comme nous. En France, où c'est Paris. Et le Calcio, bon, c'est un peu bizarre, c'est un peu.
Mais
à l'époque, le Calcio. T'avais 8 équipes qui pouvaient la gagner.
Oui,
et là, en fait, les forces sont concentrées auprès de très peu d'effectifs. Et c'est ça qui tue le football. Tu n'as pas d'incertitude. Tu regardes la Ligue des Champions, t'as 6-7 équipes qui peuvent prétendre la gagner. Là où avant, t'en avais 15.
C'est vrai.
Et c'est ça, en fait, qui nous intéressait. Ouais. Tu pouvais avoir l'Ajax qui pouvait aller au bout. Tu vois?
C'est intéressant, pertinent, Brice.
C'est juste, c'est notamment
le
regretté Pape Diouf qui le disait. Il disait,
le
grand président, c'est que c'était le sport, c'était l'un des seuls sports collectifs, si ce n'est le seul, où justement, un petit pouvait battre un gros. Et c'est vrai qu'avec ce football d'aujourd'hui, on se retrouve à avoir de moins en moins de certitude. C'est vrai que ça, inconsciemment, ça joue. Hein.
Et d'ailleurs, on le voit avec Paris, parce que regarde Paris, on disait oui, c'est super.
Alors,
ils ont fait une très grande saison et tout. Ils ont fait quand même beaucoup tourner cette année. Ils gardaient de la marge. Ouais. Ils ont failli finir invaincus. En faisant vachement tourner. C'est quand même assez inquiétant. Alors, pour les fans du PSG, c'est super, tu remplis un trophée. Mais mine de rien, le PSG gagnerait à avoir un Noël ou un OM ou Monaco super fort. Parce
bien
que ton titre.
Mais on attend, ça n'arrive jamais.
Il a plus d'éclat et en plus, t'es mieux pour la C1. Bon, là, c'est la rapport de la gagner. Mais je pense que le fait qu'on ait comme ça, c'est super team, ça pose problème. Et s'il va un peu plus loin, je trouve derrière, même les performances individuelles des joueurs, je trouve que derrière, c'est limite moins impressionnant.
Ouais.
Parce que quand tu joues dans une super team, t'as peut-être moins de mérite à mettre 45 buts, 50 buts. Alors qu'à l'époque, quand t'étais Ronaldo phénoménaux et que tu mettais 35 buts et tu jouais à Eindhoven ou tu jouais à Barcelone avec à l'époque l'adversité et que tu mettais 40 buts,
c'était costaud,
ça valait largement les 50-60 que
c'était costaud.
Pour moi, j'ai l'impression que c'est un paradigme un peu différent aussi. Par exemple, quand tu parles de la première ligue où évidemment l'oligarchie City-Liverpool est évidente, mais c'est pas le même paradigme qu'en Ligue 1. Parce que j'ai l'impression que le cash prize il est totalement différent.
Voilà, c'est ça.
On voit déjà que Sheffield qui monte en première ligue prend un cash prize de 150 millions et que Marseille prend 20 millions d'euros en étant deuxième de Ligue 1.
C'est pas le même marché.
Sunderland. Donc en fait, on n'a pas le même paradigme économique. Et pour moi, j'ai l'impression qu'avec l'argent que tu te fais en première ligue, avec des performances piètres, alors je pense que arriver deuxième en Ligue 1, je pense que c'est quand même un peu plus impressionnant que dernier de première ligue. Bah, c'est plus peut-être un souci d'ingérence, je pense, ou même de mauvaise gestion de l'effectif de la part de certains petits clubs anglais.
La gestion.
Tellement de pognon qu'ils
n'ont pas
besoin de.
Je pense à la gestion de Wolverhampton qui pense qu'accumuler des joueurs portugais et pas forcément de créer un projet collectif.
Parce qu'il y a des agents derrière aussi.
Là où la Ligue 1, c'est totalement différent. On pourrait avoir un peu plus d'incertitude si la LFP, elle, pouvait ramener le championnat au premier plan et du coup redistribuer l'argent de manière un peu plus logique.
Ils n'ont pas voulu parce qu'ils sont
piégés
par les. l'histoire de Ronaldo Messi.
On les coups Serge, messieurs.
C'est, bah, j'allais venir, Brice, mais très belle passe. En fait, ouais, le football, comme dit notre grand philosophe Mobutu, il a changé. Il a changé. Et il a changé aussi bien tactiquement que dans les vestiaires.
Tu parles
dans
le sens... Mobutu, c'est Zeko, coucou, coucou,
ouais,
nous,
non, ouais, non, non, du Real Madrid. Du Real Madrid. Du Real Madrid.
Laisse loin la politique, arrête les bêtises, toi aussi, Serge. Mais non, mais il parle de Kylian Mbappé. Mais arrête aussi, quand même.
J'ai le vrai prénom.
Ben oui, les informés, c'est terminé, le monsieur Tonnet.
Non, non, il m'a forcé dedans.
Reste cool, reste cool. Aussi.
Non, en vrai, aujourd'hui, Messi et Ronaldo ont banalisé ce qui n'était pas normal en fait. Ouais. Et aujourd'hui, bon, eux, ils sont un peu plus en retrait et on espère retrouver ça chez les autres. Mais avant Messi et Ronaldo, faut pas oublier qu'à la base, le football, c'était c'est les émotions. C'est des joueurs qui vont te faire quelque chose pendant un match. Tu dis, mais pourquoi il fait ça? Comment? Qu'est-ce qui se passe par la tête? C'est plein de choses en fait. Et aujourd'hui, on n'a plus ça. Aujourd'hui, on a laissé les émotions de côté pour faire place à toujours la certitude. La certitude de toujours gagner, la certitude d'être toujours premier, la certitude d'être toujours dans le dernier carré de la Ligue des Champions, etc., etc. En 2015-2016,
alors
moi je suis à Londres, ouais. Je vis ce qui se passe avec Leicester,
ouais.
C'est une folie furieuse, ouais. Personne n'arrive à l'expliquer. Personne n'arrive à l'expliquer.
Ranieri.
Pourtant t'as des gros clubs, mais personne n'arrive à l'expliquer. Et c'est ça aussi le football. Tu remontes des années en arrière, t'as eu le Blackburn de Shearer, etc.
Ouais,
notamment de l'époque.
C'est vrai.
94-95.
Exactement. C'est ça. Tu peux pas l'expliquer.
C'est quand même une belle équipe. C'est quand même une belle équipe.
C'est quand même une belle équipe. Mais à ce moment-là, t'as United qui est en furie.
Ouais, qui performe aussi.
En train de monter,
ouais.
Laisse tomber.
Mais t'as oublié un truc. Cantona.
Oui, aussi. Ouais.
Mais Cantona n'est pas là.
Cette année-là, c'est vrai.
Ouais.
Mais. Donc t'as ça aussi. Et à cette époque-là, là où les Anglais ils sont intelligents, ils se disent,
alors
faut qu'on crée quelque chose qui nous rende puissants financièrement. La Première Ligue a mis du temps à arriver là où ils voulaient arriver. Et quand en 2013 ils signent le premier contrat où ils font le milliard, je reprends l'exemple de Wigan à l'époque, qui descendent, ouais. en Championship, Wigan prennent 150 millions. Paris qui est champion cette, ouais. année-là en Ligue 1, je crois qu'ils prennent même pas 50.
Ah, ouais, c'est
pas
la même
passion. C'était une dinguerie.
C'est
pas la même passion.
Non, mais voilà. c'est non, je suis d'accord.
Tu vois,
mais aujourd'hui, le truc, c'est à un moment donné, il faut que nous aussi, on puisse réellement se dire, mais en fait, là, il y a un problème.
Ah, mais comment tu fais?
Il faut qu'on devienne compétitif.
Ah, mais comment tu fais, en fait? Parce que regarde, le nerf de
justement,
la guerre, le pognon,
non, la gestion,
les droits télé,
justement,
droits télé.
Gestion,
on n'arrive pas à avoir des abonnés. Les gens justement, sont pas autant passionnés, en fait.
Justement,
Non, mais il n'y a pas le même marché.
On va revenir sur la seconde.
Quand t'as un mec comme la Brune, déjà la
Brune. Président de l'NFP.
Déjà la Brune, le boss de Canal+, il ne pouvait pas se le voir.
Aïe, aïe, aïe.
Ça, déjà, ça pose problème par rapport aux droits télé. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, mettez des gens qui sont compétents, des gens qui sont passionnés, qui veulent faire évoluer.
Pour autant, tu n'auras pas le milliard de droits télé.
C'est pas, Canal, c'est pas, non, c'est pas
même,
forcément
même
le milliard.
Canal Plus, ils le disaient,
c'est
ça.
C'est pas forcément le milliard.
Ça vaut pas le milliard.
Non,
en fait.
Oui, je
le
suis
produit
d'accord.
vaut pas le milliard.
Mais c'est pas forcément le milliard. Mais pendant un certain temps, pendant 10 ans, tu dis, OK, pendant 10 ans, on part sur ça et on pérennise les clubs. Ouais. Tu sais que chaque saison, OK, on reçoit 500, 600.
C'est surtout ça.
Tu pérennises.
Mais comment tu fais pour pérenniser?
Et on a l'impression qu'il n'y a pas cette pérennisation.
Les sources de revenus, c'est quoi? C'est le marketing, c'est le sponsoring, les droits télé et les transferts.
Il n'y a pas là.
Après, les gars, il y a aussi le fait.
Les droits télé, c'est énorme.
On va revenir. Ah, c'est intéressant, Serge, vraiment. On va revenir sur la deuxième heure avec Serge, avec Ryan, parce qu'il était assez chaud. Le coach Tollet va nous laisser. Eh oui, il va filer encore des studios, des tournages. En voiture, en voilà. Brice, reste avec nous. Wahib, on va faire un changement. Hein. On a notre Joker Wahib qui va rentrer. Il est assez chaud, le Wahib, avec le compte de Moha, qui vont justement patienter encore un peu. Mais on l'aura, le compte de Moha, dans la deuxième partie de cette émission. Le coach Tollet, peut-être avant de te dire au revoir, le pronostic PSG Bayern demain 18h.
2-1 Bayern.
2-1 Bayern. On aime l'audace.
Je sais pas pourquoi on m'applaudit. Je suis là pour donner un pronostic.
C'est ça, le coach Tollet. Merci à toi, le coach Tollet, d'avoir été avec nous. Vraiment.
C'est un vrai plaisir.
Et nous aussi, le coach Tollet, toujours de l'avoir avec nous. Et on poursuit cette émission avec Alistair qui nous accompagne dans ses studios. À de suite.
Tech Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, la rediff. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et nous sommes de retour pour la deuxième heure de cette émission. Jusqu'à 22h, on est ensemble. Time Sport, et oui, avec toute l'équipe qui m'accompagne. On a dit au revoir au coach Tollet. On est toujours en compagnie de Brice, Serge, sans oublier Moha et ses comptes. Voilà, on les aura dans cette fin d'émission avec Ryan et Waheb, l'entrée en jeu de notre Joker. Le 0153-48-3000, c'est le numéro du standard pour réagir parce qu'il se passe pas mal de choses du côté avec le gendarme du football français, la DNCG et les clubs français. On y va.
Time Sport, le ras-le-bol.
Je ne sais plus par où commencer, vraiment, messieurs. Et ainsi que vous, chers auditeurs et auditrices, quel club ? On a oublié des clubs. Oh. Bordeaux, Ajaccio, Martigues, encore Lyon, le grand, l'Olympique Lyonnais. On ne sait plus où donner de la tête. Caen aussi. Comment faire avec tous ces clubs, ces rétrogradations, justement, dans le monde du football ? On ne comprend pas. Pourtant, le Paris Saint-Germain, sacré champion d'Europe, édition 2024-2025, on pourrait se dire que le football français va bien, on s'enorgueillit avec cette formation à la française, à l'échelle mondiale, le bassin francilien qui est le meilleur avec celui de São Paulo. On a l'impression qu'on est les derniers de la classe, messieurs. Moha.
Je vais reprendre les propos de Brice qui disait que l'Angleterre et la France n'étaient pas le même marché. Mais je vais utiliser un mot un peu plus grave, si vous me permettez, j'utilisais le mot de culture. C'est pas la même culture aussi. Pourquoi ? Est-ce que c'est un marché différent ? Et Brice, tu me dis si tu me rejoins. Parce que on n'a pas, par exemple, en France, quels sont les stades qui ont le meilleur pourcentage d'abonnements ? On a le Vélodrome, Geoffroy Guichard,
Bollaert.
En Angleterre, c'est tous les clubs, du plus petit au plus grand. Déjà, différence drastique en termes de culture.
Ouais.
Quand t'as autant de présence dans les stades, tu dois avoir normalement la même présence devant les télés aussi. Donc, tu peux te permettre de vendre un produit qui, en plus de ça, est de qualité lui aussi. Différence en France, culturellement, dans le style de football. Différence dans la manière de consommer le football aussi. Parce que, je te rejoins Serge, quand tu dis qu'il faut pérenniser, c'est ce qu'il faut faire. Mais c'est ce qu'il fallait faire un peu avant. Un peu avant que certains produits s'immiscent dans le quotidien des Français. Aujourd'hui, on a vu le nombre d'abonnés chez DAZN qui est vraiment pathétique. Et après, on s'étonne que les gens ne consomment pas le football de la même manière. On avait 200 000 abonnés DAZN après 6 mois de lancement. Vous pensez vraiment qu'il n'y a que 200 000 fans de football en France ? Non, il y en a beaucoup plus, mais il n'y en a pas assez. C'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, on ne pouvait pas être face à une offre qui était satisfaisante pour le public et un produit qui était satisfaisant pour les investisseurs. C'est-à-dire on est dans un paradigme complètement fou et à la fin, je reviens à ce que tu disais Bilal sur tous ces clubs qui sont rétrogradés. Bien évidemment, c'est plusieurs paramètres, il n'y en a pas qu'un seul, il n'y a pas que ça, il n'y a pas une question de culture. Bien sûr qu'il y a une culture foot à Bordeaux, à Martigues, à Lyon, en passant par Paris. Mais le problème, il est où ? Il est que déjà, tu as un problème de culture et regarde dans certains de ces clubs, et je vais parler de l'Olympique Lyonnais parce que c'est plus probant, tu as des investisseurs étrangers. John Textor qui a assumé il y a quelques temps, dire ouais, finalement j'ai pas très bien saisi la manière de gérer en France, ce qui est complètement lunaire. C'est-à-dire on a eu un extrait, on a eu un reportage, un complément d'enquête sur les droits télé et sur Nasser Al-Khelaifi. Ouais. Après on a vu cette scène complètement lunaire où Nasser Al-Khelaifi dit à John Textor, tu comprends rien, t'es un cow-boy.
Ouais.
Bah, il avait pas tort, c'était un cow-boy.
Ah ouais.
Aujourd'hui on a des cas diamétralement opposés parce que certaines personnes vont sortir l'argument de Botafogo et dire mais Botafogo ça se passe bien parce que c'est les sous de Crystal Palace, de la vente de Crystal Palace qui ont été injectés dans Botafogo. Mais il reste quoi ? Est-ce que les sous de Crystal Palace suffisent pour nourrir Botafogo et l'OL ? Absolument pas. Là, donc on a une ligue qui n'est pas compétente. On a un produit qui est difficile à vendre parce qu'il était très facilement vendable quand tu avais un mec qui a 8 ballons d'or et le meilleur joueur de l'histoire de la sélection brésilienne. Évidemment qu'il était simple à vendre à ce moment-là. Mais aujourd'hui, quand t'as pas ces stars-là, mais t'as quand même des talents en Ligue 1. C'est bien sûr qu'on est encore en Ile-de-France le bassin qui produit le plus de joueurs en termes de quantité. Mais en termes de qualité, est-ce qu'on produit autant que l'Espagne, on l'a vu culturellement, les joueurs qui a produit l'Espagne, comme Lamine Yamal, comme Nico Williams, comme Pedri, on voit que culturellement, ce que tu inculques déjà dès le plus jeune âge dans la tête des jeunes et dans l'imaginaire collectif, comme tu disais, avec le produit que tu vends, en fait, tu arrives à une finalité qui est totalement différente.
D'une masterclass, merci moi. On va donner la parole à Waheb. Vous inquiétez pas, messieurs, on va revenir à vous et aussi aux auditeurs.
Sur ce que tu dis, c'est très important par rapport à la culture foot. En Angleterre, la culture foot est régionalisé.
Quand c'est tu ça. Prends un club comme Sheffield,
Leeds, les étudiants là-bas, je crois, Wahib.
C'est des clubs qui ont une forte appartenance régionale. En France, le football s'est standardisé par les grandes équipes. Ça a toujours été comme ça. L'Olympique de Marseille, l'Olympique de Lyonnais, Bordeaux, le Paris Saint-Germain actuellement. Donc c'est différent en termes de culture foot dans la consommation du football. Ça, c'est très important à voir parce que même dans la façon de remplir les stades et d'avoir cette attractivité en termes de communication, un club par exemple comme je vais prendre Montpellier qui a une grosse culture foot qui est le club de la ville, il y a beaucoup de supporters marseillais parce que les clubs au moment où ils ont eu des grosses expansions sur le foot, sur le côté sport, n'ont pas su pérenniser et n'ont pas su construire leur légitimité dans la région. Ouais. Alors que tu prends un club par exemple, je prends un club comme Wigan. T'en as parlé, c'est très bien.
Wigan.
Allez, il y a des clubs avec une appartenance culturelle. Arsenal,
la Bretagne, on en parlait avec le coach
Arsenal ou Liverpool.
La Bretagne, cette région, le fait aussi. Exactement. Dans le football français.
Arsenal ou des clubs comme. Des clubs un peu plus gros. Et bien, en fait, c'est des clubs, historiquement, qui ont su aller chercher des fans progressivement.
Ouais.
De par leur histoire, de par leur trophée, de par leur identité culturelle dans leur quartier. Il y a un exemple très important d'un club, et je vous laisserai après deviner, c'est le club le plus détesté en Angleterre.
Ouais.
Millwall.
Ouais.
Pas Millwall, quand vous allez à Millwall, le stade il est rempli. Pourquoi il est rempli? Parce qu'ils ont créé leur identité culturelle, ils ont même un chant, c'est tout le monde nous déteste et on en a rien à foutre.
Ah,
et c'est ça. tu vas jouer à Sochaux. Sochaux qui est un club historique, fondé par Peugeot. Le club il n'est pas rempli à 100%, le stade il n'est pas rempli. Et on se pose des questions sur pourquoi Sochaux n'est pas rempli. Pourtant ils ont gagné des Coupes de France. On le voit en 2007 quand ils gagnent contre l'Olympique de Marseille au pénalty. C'est quelque chose d'important pour la région, pour les joueurs. Mais aujourd'hui, le Français veut voir du football business, veut voir des grosses équipes.
Mais il va aimer
le Real Madrid, l'Atlético.
Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Mais pourquoi? Parce que ces clubs-là se sont implantés plus vite. Parce que dans ces pays comme l'Espagne et l'Angleterre, on a eu des institutions un peu plus tôt qu'en France.
Ouais.
Aujourd'hui, tu dis que le football est un peu plus régional en Angleterre. Il y a beaucoup plus de culture. Évidemment, tu as des clubs comme Nottingham Forest qui ont deux Ligues des Champions. Donc c'est totalement différent.
Coupe des Champions.
Pardon, pour être un peu plus précis,
c'est pareil.
Il a champion, la première c'est Marseille qui la gagne.
Mais c'est la coupe des clubs champions.
Mais c'est ça.
Voilà, mais c'est la même.
C'est la
Ligue des
champions.
C'est la
Ligue
des champions.
C'est la Ligue qui a été inventée en
1994.
Il a raison,
il faut être
précis
sur le trophée. Il y a des auditeurs qui sont précis.
On va revenir sur ça, t'inquiète pas.
On n'a pas des institutions qui sont aussi anciennes en France qu'en Angleterre ou en Espagne avec le Real Madrid. Alors c'est vrai, le Real Madrid a une hégémonie, mais à cette époque-là, après le Real Madrid, on n'a pas que des clubs espagnols ou anglais, on a Benfica, on a plein de choses. Mais à cette époque-là, le Real Madrid, quand ils prennent 5 Ligues des Champions, c'est aussi une équipe de Galactique. Ferenc Puskás, Raymond Kopa, on a des joueurs qui s'exportent. Mais en France, les joueurs s'exportaient directement. On n'avait pas le temps de créer des institutions, de créer une culture et de garder nos grands joueurs. Alors que les joueurs de Nottingham Forest ou ceux du Celtic dont j'avais parlé la dernière fois sont des joueurs qui sont issus de la culture et de la région dont ils viennent et qui arrivent à amener leur équipe sur le toit de l'Europe.
Merci Serge, avec Brice et aussi Ryan, on les a pas entendus. On vous écoute messieurs. Gros dossier ça.
Je sais pas si vous vous souvenez du reportage qu'il y avait sur Sunderland sur Netflix.
Oui, je l'avais vu.
Il était pas mal.
Très bien.
Très beau reportage.
Est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas eu envie de devenir supporter de Sunderland?
Eh bien, si.
Non, pas toi.
Des fois, j'ai un peu tendance footix, mais.
En fait, non, le truc, c'est. Tu vas en Angleterre, ou tu vas en Italie, tu vas en Espagne. J'ai eu la chance de pouvoir faire ces pays. Tu vas dans des petits clubs locaux et tu parles avec les gens. Ils te racontent l'histoire des. Et tu dis, c'est très très fort. Et tu vois, tu repars avec des maillots, machin. Ce sont pas des clubs forcément connus, des petits clubs semi-pro, machin, tu sais.
Tranquille. Mourad avec le football anglais, nous ont parlé de ça.
Après, tu vois que déjà là, à ce niveau-là, il y a une histoire. C'est institutionnalisé. Il y a de la transmission. Donc forcément, à des niveaux plus élevés, plus hauts, c'est la même chose. Le foot, comme je dis, le football, quand ils créent la première ligue, ils sont dans une optique de on veut vraiment créer quelque chose qui pérennise dans le temps. Avant ça, les clubs anglais, ils commencent à vraiment s'intéresser à la Coupe d'Europe à partir de fin 70. L'exception, c'était United qui l'ont gagné dans les années 60.
68.
Mais ils s'y intéressent vraiment à partir des années 70. Et là, ils disent, il y a vraiment quelque chose à faire, en fait. Donc, tu as Liverpool, Aston Villa, Nottingham, etc. Bon, après, ils sont partis en cacahuète avec le drame du Wesel. Mais, en fait, tu as cette histoire-là. Il y a de la transmission.
il y a de la transmission. Et ça se transmet de génération en génération. Dans une même famille, tu peux avoir une équipe. Tu peux avoir une famille, pardon. Le père, il va supporter Arsenal. La mère, elle va supporter Tottenham. Le fils.
Mais on n'a pas ça, par exemple, pour Paris Saint-Germain.
Ça existe. Ouais.
Non, tu connais. Je veux qu'Arsenal Tottenham. Bien sûr, ça existe. Ah non, mais peut-être que tu connais ou pas. Ça existe.
Ah bah ouais.
Et en fait, nous sommes à la recherche des Lys à Londres.
Vous pouvez nous téléphoner. Et en fait, t'as ce truc-là. T'as ce truc-là, tu dis, c'est. Ça se transmet. Même aujourd'hui, ils l'ont encore. Ouais. Même si aujourd'hui, on est passé dans un foot business où forcément, beaucoup de gens, même les plus jeunes, ils vont choisir les grosses équipes parce que c'est plus facile à supporter, etc. Mais t'as quand même, comme ça rejoint un peu ce que je disais, le football, c'est les émotions, c'est la magie.
C'est
pourquoi
sûr.
Est-ce que tu te rappelles d'un joueur? Parce qu'à ce moment-là, il t'a fait un contrôle de fou.
Ouais.
Tu vas penser à Zidane, tu vas penser à Riquelme, tu vas penser à Rivaldo, peu importe. Mais c'est ça surtout. Et c'est ça aussi qui se transmet aux enfants,
ouais.
qui vont transmettre ça au fur et à mesure aux autres. C'est quelque chose qui se perd aujourd'hui.
Merci Serge, intéressant avec Ryan. On va revenir à Ryan et sans oublier Brice, beaucoup de réactions, c'est un gros dossier.
Pour moi, c'est pour ça que je dis souvent, quand quelqu'un vient investir dans le football, quand quelqu'un vient dans ce milieu-là du football, c'est mon avis, hein, peut-être que je vais me faire des ennemis en disant ça, mais il faut un minimum s'y connaître dans le football. Parce que il y a des gens pour moi qui ne sont pas légitime de travailler dans
carrément,
ce milieu,
ouais,
notamment Gérard Lopez,
ouais.
qui pour moi, je donne des noms,
ce qui est arrivé avec
Boavista aussi,
avec
Lille aussi,
avec
Boavista en ce moment même, qui est en train de couler aussi, et c'est Gérard Lopez qui l'a. Je veux dire, il y a des gens, effectivement, on parlait de John Textor qui, pareil, n'y connaissait pas forcément. Si on écoute une personne que j'admire un peu, parce que c'est une personne qui dit des vérités,
ouais.
c'est Romain Molina.
Ouais.
Et quand il parle
notre
de toutes ces
Romain.
Personnes, de tous ces propriétaires, de tous ces présidents de clubs,
ouais.
et qui effectivement qui dit haut et fort que ces mêmes personnes-là veulent voir absolument d'abord leur intérêt financier, et vous allez me dire ce qui est tout à fait normal, avant le sport. Mais aujourd'hui, on voit effectivement, j'entends des gens dire effectivement, et c'est tout à fait, et c'est réel. De dire effectivement c'est toujours les mêmes clubs qu'on voit gagner des titres, il y a
les
plus
trophées,
du tout
ouais.
les trophées, il y a plus du tout de d'incertitude, enfin on est maintenant on est certain. On a aussi normalisé le fait que les meilleurs joueurs aillent dans les meilleurs clubs.
C'est ça.
Dans les clubs les plus riches, les clubs les plus. Alors qu'avant, on parlait effectivement de Parme. Et à Parme, effectivement, ben, t'avais des grands joueurs. T'avais Vérone. T'avais tous ces joueurs-là.
Ouais. Ça a toujours été un club de transition. Ça n'a pas été un club qui a rivalisé.
Jamais. Ouais. Ouais, je suis d'accord.
Voilà,
ouais.
c'est pas
oui, mais ce que je veux dire,
même
c'est que.
Quand ils gagnent des Coupes d'Europe, dans les
années
90,
bien sûr. Mais en l'occurrence, on parlait de la Corogne. La Corogne, effectivement.
Pareil,
c'est
un club de transition.
Oui, bon.
Il arrivait à prendre parfois des trucs, mais
c'est ça. Mine de rien, aujourd'hui, ce sont des clubs qui n'existent plus, dans le football européen et dans les plus grandes compétitions, n'existent pas.
Mais ils ont pas
là
existé.
Où moi je veux en revenir parce que je suis en train de m'évader un peu.
Vas-y.
C'est effectivement le football n'est pas donné à n'importe qui. C'est-à-dire que si on veut rentrer dans ce milieu-là, il faut s'y connaître un minimum. Donc effectivement, s'y connaître aussi dans le milieu financier, moi c'est pas du tout mon domaine, je ne m'y connais absolument pas.
Ouais.
Mais voilà, c'est dans le côté financier, mais aussi surtout dans le côté du sport, en l'occurrence du foot. Effectivement, quand on parlait de John Textor, même moi, c'est exactement ce que j'allais dire. La phrase est lunaire. Je suis venu dans un pays où effectivement je me suis perdu. Je ne savais pas comment investir dans ce pays-là. J'ai pas su mi voilà.
Mais regarde la différence avec Marseille par exemple, Ryan. Là, on a Franck McCourt aussi qui est un peu dans le cas un peu similaire. C'était un peu flou au début.
Exactement.
Mais là, en l'occurrence, on a Mehdi Benassia et Pablo Longoré qui gèrent le côté sportif.
C'est différent.
Fait ce quoi, mais c'est pour ça qu'on a un peu plus de logique aujourd'hui du côté de Marseille, ce qu'on n'a pas du tout du côté de l'Olympique Lyonnais.
Ouais.
Aujourd'hui, John Textor, il est venu à l'Olympique Lyonnais avec une culture américaine.
Alors
là où, si on prend un club de NBA par exemple, où il y a une frontière vraiment floue entre le propriétaire du club et de la franchise et le GM, le General Manager, pardon. En fait, il a essayé d'avoir la même situation ici à l'Olympique Lyonnais. C'est lui-même qui a viré Pierre Sage. En quoi John Textor, qui ne s'y connaît pas forcément au football, vient des États-Unis, essaie de calquer ce qu'il a vécu aux États-Unis en France, ce qu'il a vécu à Crystal Palace en France, ce qu'il a vécu au Brésil en France. Et il est un problème. Alors que Pablo Longoria et Mehdi Benassia, alors t'en as un qui a joué avec Marseille,
ouais.
et t'as l'autre qui connaît le football européen.
Pour répondre juste, Bilal, à Moura, c'est
oui.
pas pareil, parce qu'avant Pablo Longoria, on avait un monsieur, monsieur qui
était juste
mauvais, il ne connaissait absolument pas le football.
Oui, il était juste
ce qui fait que, il faut savoir que Courte avait investi plus de 500 millions d'euros jusqu'à présent. Et avant, c'était
750 millions.
C'est 750 millions aujourd'hui. Et c'est vrai qu'avant, c'était investi, mais d'une manière lunaire. C'est-à-dire, c'était des douillets Caleta-Car à 25 millions.
C'était pas sa décision.
C'était pas la décision
de directeur sportif.
Mais c'est exactement ça.
C'est qui le directeur sportif?
Oui, c'est
vrai.
C'est vrai.
On l'écoute, Brice. Mais oui, c'est clubs qui disparaissent.
Juste pour pas gaspiller trop de salive sur John Textor, on a vu déjà des présidents de clubs qui connaissaient pas forcément à la base le ballon rond et qui ont fait des très grandes choses. Par exemple, Bernard Tapie. Voilà, à la base, il connaissait pas le ballon rond et il fait des très grandes choses. Donc en fait, il n'y a pas que ça. Voilà, on va pas gaspiller trop de salive sur John Textor. Moi, j'aimerais revenir sur ce qu'on disait sur la culture. Qui dit culture dit histoire. Il y a un éléphant dans la pièce qu'on ne veut pas voir. Nous n'avons pas en France une grande culture foot. Nous sommes une grande nation de sélection depuis 25 ans, peut-être un peu plus parce qu'on a gagné l'Euro 84, mais encore, il y a eu quand même beaucoup aussi
de. Le très regretté Didier Roustan disait la même chose.
Mais nous ne sommes pas un pays avec une grande culture foot. Je vais vous donner un exemple.
Alors,
tout à l'heure, Bilal en intro dit qu'on a le plus grand bassin de talent dans le foot, qui est en l'occurrence l'Île-de-France, avec Rio. Si on avait une culture foot, mais il y aurait déjà 4 grands clubs à Paris. Et on aurait gagné combien de coupes d'Europe puisqu'on est les meilleurs.
Exactement. C'est vrai.
Parce qu'à Paris, ils vont au théâtre. C'est très bien le théâtre, j'adore ça.
Non, bien sûr.
Mais ils vont au théâtre. Ils vont au cinéma.
C'est sympa.
Mais
ouais, c'est la culture.
La consommation. Si on considère que le foot est une industrie culturelle, pardon, les gens font aussi autre chose. Moi, quand je dis que je suis fan de foot, des gens que je connais dans des cercles un peu, de gens intello, machin. Ah, t'es fan de foot, toi? J'aurais pas cru. Bah oui, en fait, je peux très bien aimer Proust et aussi aimer le foot.
Ouais.
Parce que le foot est encore vu comme quelque chose de beau.
C'est vrai,
c'est ça. Et c'est éclaté. Il n'y a pas une grande culture foot. Et donc, pour finir là-dessus. Et
tu peux dire même la profession de journaliste footeux ou même sportif.
Exactement.
C'est pareil.
C'est dénigré.
Les footballeurs sont dénigrés. C'est une vérité.
Il
n'y
a pas une grande culture foot. On se rassemble que quand les Bleus arrivent en demi-finale. Avant, il ne se passe rien. On n'est pas au courant.
Ouais.
Ah non, mais moi, tu comprends. Les compétitions, les grands footballeurs, moi ils gagnent trop de pognon, machin, bon bref. Il n'y a pas une grande culture foot. Et donc nos clubs, historiquement, n'ont jamais été vraiment installés. Quand il y a les poteaux carrés avec les verts, on se réjouit. Il y a une parade, Il y a une parade.
La descente des Angelisés.
Dans quel pays tu fais une parade pour une équipe qui a perdu la finale de la Coupe des clubs champions? Ça n'existe pas en fait. Ouais. Tu fais pas ça en Angleterre ou en Italie. Il n'y a pas la culture de la gagne. Et ensuite, il s'est greffé une deuxième chose. 96, l'arrêt Bosman, la libéralisation, le fait que les joueurs peuvent circuler librement, donc Jean-Marc Bosman, pour nos auditeurs, qui donc en fait, il y a une jurisprudence au niveau européen, Jean-Marc Bosman en fait est autorisé à pouvoir circuler donc librement, et je ne sais plus dans quel club il va, mais à l'époque, il y avait un quota de joueurs qui était extra-communautaire. Et donc, par exemple, quand Milan arrive en finale contre Marseille, ils ne peuvent pas le faire jouer, mettre 4 joueurs étrangers sur la feuille de match. Il faut en mettre 3. Et voilà. Et là, à partir du moment où il y a l'arrêt Bosman, les joueurs peuvent partir librement. Et 96, qu'est-ce qui se passe après l'Euro? Les Zidane, les Jurkes, tout le monde part. Et pourquoi tu n'as pas les moyens de les retenir? Pourquoi? Parce que tu n'as pas le pognon. Et pourquoi tu n'as pas le pognon? Parce que tu n'as pas l'audience, tu n'as pas le marché.
Parce que tu
pourquoi
tu n'as pas le marché?
Parce que t'as pas une grande culture foot.
Mais t'as la raison.
C'est aussi simple que ça.
Et d'ailleurs, la raison. D'ailleurs, pour revenir.
On n'a pas le temps. D'ailleurs, tu vas retenir ce que tu as en tête et on va revenir avec toi. Waheb, notre consultant, et aussi avec vous, chers auditeurs et auditrices de Beurre FM.
Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, la redit. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et nous sommes de retour sur cette antenne, 21h19 dans la deuxième heure de Time Sport jusqu'à 22h avec vous, chers auditrices et auditeurs, le 01 53 48 3000. On regardait Wahib qui m'accompagne avec Ryan, avec Serge, avec Moha, sans oublier notre Brice. Et on va revenir concernant nos clubs français et cette fédération avec la Ligue de football professionnel.
Time Sport. La parole des sociaux.
On revient à toi, Wahib.
Non, et pour revenir à ce que tu dis, Brice, ça nous rappelle un peu cette histoire de ce football mondial d'ailleurs, parce que c'est pas que la France qui a été touchée, c'est aussi l'Amérique latine, on le sait, avec après l'arrêt Bosman qui a été pillé par les clubs européens. Pour revenir maintenant sur ce football français, j'aimerais revenir sur l'affaire par exemple de Nicolas Anelka dans les années 90-2000, où il part très tôt, il part à Arsenal. Elle illustre un peu la situation des clubs qui n'arrivaient pas à garder leurs joueurs, à rendre des championnats attrayants. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'histoire Canal+. Canal+, qui vient, qui repart, qui vient, qui repart. On a toujours dit que c'était une chaîne historique, mais Canal+, c'est un peu le père qui part en voyage très longtemps. Je vais vous expliquer.
Qui est parti acheter des clubs un dimanche matin, c'est ça?
Alors, je vais vous expliquer. Dans les années 90, Canal commence à avoir de l'émergence. Ils achètent, ils diffusent le football. Il y a une grosse accessibilité au football. La Ligue 1 est diffusée. Et dans les 2005-2006, ils se débarrassent un peu des droits et c'est Orange qui reprend ça. Orange, ouais. Et on retombe un peu dans ce fossé qu'on a actuellement avec un marché du football qui fonctionne moins. J'en avais parlé la dernière fois avec Bilal et tout.
C'est vrai.
Et donc après, ce qui se passe, c'est que Canal revient un peu pour reprendre les droits, mais il ne reprendra jamais les droits à 100% de la Ligue 1.
Ouais. Pourquoi ils se débarrassent? C'est important de le dire.
Parce que financièrement, ça n'était pas avantageux. Bah voilà, donc après cette période-là, donc après 2010, Canal revient un peu sur le marché, Al Jazeera achète, ouais. Et puis il y a l'émergence des Qataris.
Voilà.
Les Qataris qui vont racheter la Ligue 1 avec Beansport.
Avec nos confrères de Beansport.
Beansport qui va être stabilisé. Canal arrive à s'immiscer dedans, il y a des discussions, ils arrivent à copartager le gros match, et sur Canal+, le match en time prime, voilà. Donc pour dire, il n'y a jamais eu une chaîne de télé qui a su pendant 20-30 ans standardiser la Ligue 1 et être une chaîne historique. On nous dit que...
Canal+, si, quand même.
Alors pour dire...
Canal+.
Ce que je veux dire, c'est que c'est la chaîne du football, on le sait.
Ouais.
Mais ce que je veux dire par rapport à la Ligue 1, Canal n'a pas été toujours présent des années 90 à actuellement. On le sent qu'il y a une absence. Et ça crée une instabilité aujourd'hui dans notre football. Et on le voit par rapport à l'accessibilité. Et ça illustre quelque chose d'autre, la décentralisation de notre État. On en parlait avec Bilal par rapport aux médias, on en parlait par rapport à la culture, et ben on peut aussi en parler par rapport au football.
Au football, ouais.
La France est sur un marché. T'as le marché italien, le marché espagnol, le marché anglais. Donc déjà, t'es entouré par trois gros pays, trois gros monstres du football. Ça veut dire qu'en termes d'exportation, quand tu me parles de la règle Bosman, la France, elle est dans un entonnoir. Parce qu'elle n'a pas su, dans les années 90, gérer cet aspect de se dire on va construire une rivalité, construire 3-4 clubs.
T'as pas le pognon.
Mais parce que t'as pas le pognon, parce que tu n'as pas les investisseurs qui voulaient investir. Et ça.
Mais il n'y avait personne, t'avais pas le pognon en fait.
Mais pour revenir à ça.
On pouvait en faire rentrer. Hein.
On pouvait en faire rentrer. Ouais. Et là en ce moment,
on
nous a parlé, parce que moi j'avais écouté l'interview de Pierre Ferracci avec des confrères qui disait en France, et on parle par exemple de l'Allemagne et tout, il n'y a pas d'investisseurs industriels qui investissent dans le football. Non, ils investissent pas en Angleterre, ils investissent dans le football parce que ça peut être une forme de populisme, mais aussi de culture pour le football. Donc voilà. Et pour finir par rapport à tout ça,
allez, vas-y.
On parle par exemple de l'Île-de-France. Alors j'ai fait un petit listing. Alors il y a le Racing de Madjer qui a gagné un titre dans les années 30, il me semble, qui n'est plus dans le professionnel. Ils sont en N2. Le Red Star qui est revenu, mais qui a eu du mal financièrement.
Red Star.
Et qui a perdu un peu de son identité avec les Américains il n'y a pas longtemps, qui est en train de reconstruire son stade.
C'est ça.
Le Paris FC qui a eu des gros problèmes financiers, qui a remonté petit à petit.
De la famille.
Donc déjà ça. Ah, donc actuellement, on a le Paris 13 Atlético, qui est un club qui est en train de monter. Historique. Donc au final, à Paris, les clubs qu'on a, c'est le Paris Saint-Germain, ça va être le Paris FC, mais il y a d'autres clubs qui vont arriver avec des nouveaux investisseurs. On parle de Fleury.
On sait pas.
Fleury avec cette magnifique équipe féminine, football féminin aussi.
Fleury, mais aussi dans le football masculin, qui monte en N1. Ouais. Dans un an, c'est la Ligue 3.
On avait Versailles aussi.
Versailles aussi.
Non, mais compare à la première ligue.
Attends,
mais
tu vas la comparer.
Parce que dans le championnat anglais, t'as quoi? T'as 5 ligues professionnelles, je crois. 5 ou 6. Ça n'a rien à voir. Et en plus, t'as les droits télé en plus, t'as les accords commerciaux, ça n'a rien à voir. Là, je te parle vraiment de professionnaliser l'Île-de-France. Et ce qui se passe en ce moment, c'est que l'Île-de-France, le football français est en train de se régionaliser, de par le Paris Saint-Germain, le Paris FC, etc. En Bretagne aussi, la Bretagne l'a fait auparavant, il y a dans les 10 dernières années, avec Brest, Rennes, Lorient, ils ont leur marché. Quand on l'a fait, mais quand on est en train de descendre financièrement, bon, ça c'est une histoire. À part, le Sud ne l'a pas. Le Sud n'a pas de club de gestion régionale, mis à part l'Olympique de Marseille.
Il n'y a
pas que ça. Peut-être en Côte d'Azur, très compliqué aussi. La SCAN qui a perdu sa légitimité.
C'est difficile, hein.
Donc,
c'est difficile,
hein. Et Cannes qui est en train de revenir. Donc c'est très compliqué. Donc au final, pas de régionalisation du football. Pas de vrais investisseurs, pas de vraie chaîne de télé qui a standardisé le football français, qui a construit son histoire. Parce que pour construire son histoire, il faut avoir une chaîne de télé qui soit en continu. En Angleterre, ça a été Sky Sports, ça a été la BBC aussi qui l'a diffusé.
Très costaud.
Et en France, on a Canal+, mais Canal+, c'est le père absent du football. Et ça, faut le dire.
Canal+, ils ont combien maintenant? 2 millions d'abonnés?
Ouais.
Mais comment tu fais en fait pour être rentable? Non mais en fait, regardez ça.
T'as pas attendu le football pour avoir ces deux. Beaucoup plus.
À l'époque, ils en avaient 5 millions.
Canal. Ouais, mais ils ont beaucoup plus, hein.
Non mais là ils en ont pas beaucoup, hein. 2-3 millions maximum.
On va voir ça.
Ce que je veux dire, c'est que il y a un truc qui est intangible en économie. c'est l'offre et la demande. Ouais. Voilà. À partir du moment où t'as pas de débouché, je dis pas que le football français se porte bien. Honnêtement, je pense que Vincent Labrune va pas venir là-dessus et tirer sur une ambulance. Vincent Labrune a fait des erreurs. Il y a eu plein d'erreurs qui ont été commises. Honnêtement, quand tu regardes DAZN, les émissions sont pathétiques, la prise d'antenne et tout. Même la réalisation en France, elle est catastrophique. Tu regardes la première ligue. Même des matchs qui sont moyens, ça va beaucoup plus vite, t'as l'impression. C'est mieux réalisé.
Statistique, j'avais lu un article très intéressant sur ça. On parlait des caméras dans un match de football, dans un gros match de football en prime time. C'est 150 caméras pour le football français. Tu vas en Angleterre, c'est 230 caméras.
Bah oui, ça veut le réaliser. Ça veut même la façon, si on rentre dans les détails, la façon dont les panneaux sont disposés, même derrière et tout, enfin, tout ça joue. Mais il y a eu des erreurs qui ont été faites. Mais la règle est intangible en économie. L'offre et la demande. Si t'as pas une demande, tu fais quoi? Tu peux avoir le magicien. Enfin, je veux dire, demain, tu vas avoir des investisseurs, tout ça. Si tu n'as pas la demande, tu fais comment?
Mais parce qu'aussi, c'est intéressant de le
dire. Les gens ne consomment pas autant de foot que dans les autres pays.
Mais c'est parce qu'aussi, on a surcoté les prix en France. On parle par exemple des budgets des clubs et on parle des salaires. Et ben, ça illustre aussi tout ça. Je parle d'offre de la demande. Mais par exemple, aujourd'hui, le football français, en termes de prix, en termes de valeur, moi, je trouve qu'il est surcoté.
C'est QFD. Oui. Si tu baisses tes salaires, tu vas tirer qui? Tu vas acheter qui?
Tu vas acheter personne.
T'achètes personne, donc moins de gens sont intéressés, donc mécaniquement ton audience baisse. En fait, on peut pas dire. En fait, c'est simple.
Moi, je suis pas d'accord avec
si
ça.
On arrive,
vas-y.
Regarde.
Oh, vas-y.
Nous sommes en France, 67 millions. On est le pays occidental le plus peuplé derrière l'Allemagne.
Ouais.
On est la deuxième puissance économique européenne de la zone euro.
Ouais.
On peut dire qu'il n'y a pas de pognon. Donc c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que les gens ne s'intéressent pas suffisamment au foot.
C'est ça.
Je veux dire, tu vas en Italie, à l'Assemblée nationale, les députés, ils font des débats sur le football.
Bien sûr.
En France, dès qu'on parle de foot, c'est ils sont teubés, ils courent après un ballon, ils sont sportifs, ils sont teubés, ils sont machin. On ne s'y intéresse que quand on arrive en demi-finale de la Coupe du Monde ou de l'Euro. Le reste du temps, on ne s'y intéresse pas. Dans les autres pays, ce sont des débats nationaux. Moi, je vais souvent en Espagne parce que j'ai un ami qui habite là-bas. Tu vas là-bas, les gens, ils te parlent de Benzema direct. T'es français? Ah, Benzema.
Ouais, c'est comme l'époque, ouais.
Nous, en France, nous ne sommes pas, mais les gens ne veulent pas l'admettre.
Ouais.
Nous ne sommes pas suffisamment intéressés. Pourquoi? Juste pour finir, Bilal.
Alors,
Canal+, par exemple, le pognon qu'il y avait de Canal+, à quoi il sert en grande partie? À financer le cinéma français.
Oui, la production.
L'exception culturelle.
Ouais.
Voilà.
Ouais.
En France, on a
vrai,
d'autres
Canal+
choses qui intéressent les gens. Il faut produire du cinéma.
Et ça marche bien
choses.
Sur la production et la distribution.
Moi,
Canal+,
je ne dis pas, un Bilal.
Bien sûr.
Je dis juste que
à peu près
on n'a pas la même passion.
Près de 27 millions d'abonnés chez Canal+, à travers le monde.
Ah, mais dans le monde,
sur...
en France.
Oui,
mais en France.
En France, ça doit être à peu près vers des 6-7, si ma mémoire
est
bonne. Je ne sais plus.
Très intéressant, ce qu'il dit par rapport à la culture et par rapport à cette industrie culturelle qu'on a vécue en France. Mais pour revenir à une chaîne de télé et pas revenir à peut-être recentraliser une chaîne de télé, et pourquoi pas aussi décentraliser certains médias qui puissent, pourquoi pas, diffuser et afficher des matchs. Par exemple, on parle par exemple de l'accessibilité au stade pour commenter un match. Les droits de retransmission sont ahurissants, c'est trop cher. Tu prends un média régional en Espagne, il a l'accessibilité d'aller au stade.
Ouais.
Les prix ne sont pas les mêmes. Et pourtant, la Liga, il y a des gros joueurs qui sont passés. C'est toujours des championnats qui sont serrés. Donc, c'est très compliqué. Donc voilà.
9 millions et demi d'abonnés en France. Bref, écoute, pour nos confrères de Canal+.
Voir après le chiffre d'affaires qu'ils font et s'ils s'y retrouvent sur le foot. Moi, je demande à voir.
Serge, on t'écoute avant de rebondir.
Bon, j'ai écouté tout ça très attentivement et c'est vrai que de base, comme vous l'avez très bien dit, la France c'est le pays des lumières. Donc d'abord la France c'est cérébral avant d'être physique. Ça va être tu vas aller vers l'art, donc l'écriture, théâtre, cinéma, musique. Et les trucs et j'en passe. Et c'est vrai que même dans les années 70, je sais pas si vous avez vu le reportage à l'époque sur les Verts.
Oui.
Qui était vraiment intéressant. Et à part cette région, où, à part la ville de Saint-Etienne qui était vraiment derrière eux, on sentait quand même un décalage avec Paris notamment. Parce qu'en France, il y a l'île de France et le reste de la France. Et on sentait un sacré décalage en fait à ce niveau-là. Et le football, c'est le sport des quartiers populaires en vrai. Aujourd'hui, tu joues au foot, tu prends une bouteille, tu mets deux cages, tac, tu joues au foot.
Ouais.
T'as pas besoin de grand chose en vrai.
Ouais.
Comparé à certains sports où faut des choses plus spécifiques, notamment tennis, golf ou autre. Le rugby est plus apprécié en France.
Le rugby, oui.
C'est un très beau sport, j'aime beaucoup le rugby. Il est plus apprécié. Maintenant, là où le rugby a réussi à faire ce que le football pour l'instant n'arrive pas à faire, c'est justement régionaliser, comme vous avez dit, notamment dans le sud. Il y a une hype aussi à un moment donné avec le Racing 92.
Bah oui.
Et en fait, ça continue comme ça. Et après, c'est notre mentalité, c'est encore autre chose par rapport au rugby.
Et surtout que les droits télé, ils ont super bien géré les droits télé.
Aussi.
Et en fait, ce qui est intéressant que tu dis, et désolé de t'interrompre, c'est qu'en fait, on est le rugby est le miroir en fait du football anglais. En fait, le rugby anglais a vendu ses droits télé à CVC et ils ont une gestion catastrophique, ils sont endettés en termes de droits télé, ouais. Alors que nous en France, avec le football. Donc voilà.
C'est ça. Et du coup, le problème en France, français, c'est que le football français, comme vous l'avez dit, a les yeux plus gros que le ventre.
Ouais.
On a des dirigeants qui veulent ou qui ont une vie. Enfin, ils vivent au-dessus de leurs moyens.
Ah bah oui, ils surcotent.
Clairement.
Ils surcotent les joueurs.
Et au-delà de ça, moi, quand j'avais vu l'histoire de. J'ai oublié leur nom. À 1 milliard. C'était qui déjà le.
Mediapro.
Mediapro, ouais. À 1 milliard.
Le confrère de Mediapro.
Je dis, jamais le football français vaut 1 milliard. Soyons honnêtes.
Ouais. Non.
Soyons honnêtes.
Non, ils vont jamais ça.
Qui ouais. Aujourd'hui, vous avez deux choix. Vous avez un choix de regarder un match de Premier League, milieu de tableau, allez, Brentford, Everton, ouais. À 16h. Et vous avez potentiellement une affiche de Ligue 1. Qu'est-ce que vous allez choisir ?
Mais Didier, les équipes aussi.
Ouais. J'ai pas compris ce que t'as dit, qu'ils vont pas
aller. Allez, tu prends Nantes,
le championnat.
Nantes-Brest.
Je regarde Nantes-Brest.
Jamais de la vie.
Ouais, jamais de la vie.
Serge.
Seul. Merci,
Serge.
Jean-Luc Merci. Jean-Luc Dornelou. Le 01-53-48-3000, c'est pour avoir justement. On a Greg qui est avec nous ce soir, notre consultant Greg qui aimerait réagir. Bonsoir, Greg.
Eh, bonsoir, les amis. J'espère que toute l'équipe va bien. En tout cas, je vois que c'est un débat passionné. Beaucoup de partage, beaucoup de différences de vision et de vue. Et c'est très, très bien. C'est même extrêmement plaisant à écouter.
Ah ben, c'est gentil.
Alors, moi j'appelle alors, parce que je voudrais juste réagir sur les droits de télé. Et en fait, il y a beaucoup de sujets qui ont été abordés. Alors, je vais essayer d'aller d'être très succinct, pas trop vous prendre de temps.
Alors, on a 3 minutes avant la pause, Greg.
Alors, c'est parti.
La première chose, allez, c'est à toi.
La France n'est pas une terre de football. On ne peut pas comparer la France à l'Italie, à l'Angleterre, à l'Espagne ou même à l'Allemagne. On n'est pas une terre de football. En France, on a le handball. On a le rugby, on a le basket, on a le hockey sur glace, on a plein de sports. Le football ne fait pas partie de la culture française et il est né vraiment dans la culture française à partir des années 2000, à savoir qu'on a gagné les championnats du monde et les championnats d'Europe. Donc ça, c'est un facteur qui est très important à comprendre en termes de business au niveau footballistique. La deuxième chose, en France, la AFP a fait une grave erreur. Quand on devait élire le président de la LFP, on avait un super candidat, quelqu'un qui connaissait le pay-per-view, à savoir les chaînes payantes, quelqu'un qui était également président de club, qui avait également un excellent bagage, un underground au niveau présidentiel, qui était l'excellent et extraordinaire Michel Denisot. C'est lui qu'on aurait dû mettre. On l'a pas mis, on a choisi d'autres gens.
Ouais.
Et après, on est rentré dans des mirages. Alors effectivement, il y a une mirage Mediapro, hein, où les gens croient au Père Noël que le football français vaut 1 milliard. Le football français vaut pas 1 milliard. Il y a 20 ans de ça, je rappelle, Canal Plus payait 600 millions d'euros pour le football français. Aujourd'hui, ils n'arrivent même pas à en avoir 350-400 millions d'euros. 20 ans après, malgré toute l'inflation qu'il y a pu avoir. Donc là, il faut avoir une vraie réflexion. Aujourd'hui, je crois que le vrai problème du modèle d'affaires de la vente des droits télé, c'est le fait d'avoir splitté le match phare et de l'avoir donné à Pidin. Et de ne pas avoir groupé dans l'offre globale. Aujourd'hui, si le football français veut s'en sortir, il n'y a pas de photo. Il faut absolument que dans l'offre globale, on ait tous les matchs, le meilleur match, que ce soit samedi soir ou dimanche soir, peu m'importe,
oui.
Et tous les autres matchs. Pourquoi ? Moi, je suis supporter d'Amiens. Le meilleur match, c'est quoi ? C'est le PSG contre je ne sais qui. Je suis supporter d'Amiens. Bah, je veux voir Amiens contre le PSG dans l'espoir fou que Amiens tape le PSG. Je suis supporter de Marseille. J'ai envie de voir Marseille contre le PSG dans l'espoir fou qu'ils vont taper le PSG. Et en sortant ce lot-là, on affaiblit en réalité le lot de 8 matchs. Et ça, c'est un vrai problème de fond qu'il faut que la LFP résolve très, 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 très rapidement.
Et est-ce qu'on veut le résoudre, ce problème, justement ? Là est la question aussi.
bah, ils vont le résoudre, ils vont pas le résoudre en réalité, parce que le club n'a encore des droits pendant un an, ils vont s'accrocher dessus, et puis peut-être que Nasser utilise également ce match-là comme levier en termes de pilotage de la LFP, et c'est encore un autre débat. Deuxième chose, comme j'ai dit en introduction, la France n'est pas un pays de football.
Ouais.
Et quand on a compris ça, il faut savoir dans ce cas-là valoriser le peu de choses qu'on a bien. On a le PSG là, qui gagne la Champions League, ça va être valorisé en termes de marketing et en termes football.
C'est fait, ouais.
Très, très, très peu, parce qu'on a des gens qui sont complètement décalés.
Ouais.
On a ramené Taverneau, là, de M6,
ouais.
Pas être méchant avec lui,
ouais.
Il est décalé avec la réalité, le garçon.
Ouais.
Le football français, ça vaut 300-350 millions. On en a déjà discuté, ça vaut pas plus
ouais.
Que le football portugais, le football hollandais.
Eh bien, on a une réaction de... On a une réaction avec Moha.
Salut Greg, j'ai une petite je veux rebondir juste sur ce que tu dis sur la manière de surévaluer les droits télé et pourquoi est-ce qu'on a perdu Canal+, c'est la manière aussi dont on vend ces lots-là. Déjà, il faut rappeler qu'en France, les droits télé, on les vend pas de la même manière partout dans le monde. On vend par lot de matchs de 8. Et tu peux avoir dans ce lot-là soit le match du prime time, soit d'autres lots. Comment tu les achètes si t'es un diffuseur? Tu les achètes aux enchères aveugles. C'est-à-dire que tu mets un prix et la LFP va piocher le prix qui l'arrange le plus. C'est-à-dire que tu sais pas si t'es Canal+, combien DAZN va mettre, combien Beansport va mettre, et du coup tu te retrouves complètement perdu. C'est pour ça que Maxime Saada, quand lui propose la somme de 1 milliard, il dit bah jamais de la vie, je paye cette somme-là pour la Ligue 1. Évidemment qu'il sera à perte. Mais aujourd'hui, le seul moyen pour la Ligue 1 de survivre, c'est de vendre des petits packages de matchs de 8 à plusieurs diffuseurs différents. Donc si tu veux voir un match de ton club, tu dois avoir Beansport, Canal+, et un moyen illégal peut-être, pour essayer de suivre tous les matchs. Et encore, dans tout ça, tu dois essayer de survivre. C'est normal que ça ne fonctionne pas.
On termine avec Greg.
Moi, tu as mis le doigt sur le problème en fait franco-français. Le problème franco-français, c'est que les gens, ils veulent surévaluer le modèle d'affaires français. Ils veulent encaisser un maximum d'argent. Pourquoi? Parce qu'ils disent, pour faire évoluer le football français, je donne n'importe quoi comme chiffre, il nous faut 800 millions pour que tous les clubs puissent être arrosés, que derrière ça puisse tourner, alors que le produit en vaut 400 millions. Et ils prennent le problème à l'envers. La réalité, elle est la suivante. Quand tu prends un groupe comme Canal+, il est producteur. Aujourd'hui, la LFP, ils veulent mettre 21, je sais plus quoi, la filiale de l'équipe en producteur. C'est des gens, ils n'y connaissent rien. Moi, quand je regarde Canal+, ils ont réinventé la production du football. C'est les premiers à avoir mis la caméra isolée sur un joueur.
Ouais.
C'est les premiers à avoir mis la caméra isolée. C'est les premiers à avoir introduit, et je parle quand je dis les premiers, aux Européens, c'est les premiers qui ont introduit la data dans le football,
en termes
de passe, de cela. Ils sont extrêmement créatifs, imaginatifs. Et c'est là où la LFP se plante complètement.
Tu vends
un produit, tu ne vends pas d'imagination.
On reviendra.
Tu vends un produit, tu vends
dessus. Merci Greg. Peut-être prononcer Greg. PSG Bayern, rapidement Greg.
Bah, je reste sur le 3-1 de l'autre jour.
Un 3-1 évidemment. Pour le Bayern ou le PSG?
Le PSG.
Le PSG, ok. C'est retenu, c'est enregistré, Greg. Un grand merci, un bon week-end à toi, Greg. Allez, on va marquer d'une courte pause, la dernière, avant de terminer cette émission à 22h et on reviendra, c'est promis, avec les comptes de Moha.
Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, la rediff. La 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et nous sommes de retour pour la dernière partie de cette émission. Voilà, 21h39. Vous êtes à l'écoute de Beurre FM, chers auditeurs et auditrices. On est ensemble pour la dernière de la semaine. Vous retrouverez ce dimanche Foot de foot avec Foot de sport aussi avec Mohan, le coach Nasser Sondiak, sans oublier toute son équipe. Il y aura, je crois, aussi Yanis, le jeune journaliste stagiaire qui l'accompagnera, direct de Rouen. On pense fortement à eux. On pourra les retrouver 18h-20h. On est ensemble avec toute l'équipe de Tamsport autour de cette table. On va retrouver qui? Wahib. Il a été très très bon, Wahib, tout comme le Ryan. Brice est avec nous, avec Serge. Alistair est toujours en live avec nous, Alistair. Et oui, il fait des merveilles sur les réseaux sociaux. Mais on va donner la parole à notre Moha et ses comptes.
Moha et ses comptes sur Beurre FM.
Il n'était pas un guerrier de mots, mais un soldat de silence. Il tenait la ligne comme Léonidas tenait le pas de Thermopyle. Paolo Maldini, le roc immobile face à la tempête, le roi de l'ombre qui défend sans faillir.
Paolo est né dans un mythe, pas le sien, celui de son père. Cesare Maldini, défenseur élégant du Milan des années 60, capitaine en noir et rouge, comme dans une scène de Fellini, silhouette digne et regard profond. Et dans cette maison où les murs sentaient déjà la pelouse, Paolo a grandi, non pas avec le rêve de briller, mais avec celui de tenir debout. Pour son père, pour Milan, pour le nom. Et quel nom ! 25 saisons avec le Milan AC, 902 matchs officiels, 26 trophées, 5 Ligues des Champions, une fidélité rare, un palmarès taillé dans le marbre, mais Paolo n'a jamais pesé ses trophées, il pesait ses gestes. Pas de coup d'éclat, pas de célébration tapageuse, juste un silence, une science du placement, pardon, une élégance à couper le souffle. Il a dit, et ça suffit à définir toute sa philosophie, « Si je tacle, c'est que j'ai commis une erreur ». Dans un football qui s'agite, Maldini attend, il lit le jeu comme on lit une partition. Il se tient là, juste là où il faut, comme une ligne droite dans un monde courbe. Il ne joue pas, il orchestre. Il était un gardien de temple, un homme de peu de mots, mais de grande présence. Il aurait pu être un personnage de Kurosawa, le samouraï vieillissant qui refuse de dégainer, mais qu'on redoute plus que sans épée. Ou un centurion dans un péplum antique, l'un de ces généraux romains silencieux, droit dans le vent et fidèle à l'honneur, qui tiennent le flanc d'une cité sans jamais réclamer le trône. Il avait la posture de Marc Aurèle, l'empereur philosophe, celui qui gouvernait en écoutant avant de parler, celui qui plaçait la responsabilité au-dessus de la gloire. Il rappelait sans cesse que ce qui ne nuit pas à l'essence de l'âme ne peut lui faire aucun mal. Un homme qui plaçait la force dans la maîtrise de soi, la dignité dans la retenue. Maldini, c'était ça, la grandeur silencieuse, le courage sans éclat. Et s'il ne devait rester qu'un soir, ce serait Athènes, 2007, la revanche contre Liverpool. 2 ans après Istanbul, 2 ans après la douleur, il revient, il rejoue et il gagne. Sans haine, sans vengeance, avec la même allure droite et le même regard. À 38 ans, il soulève sa 5e Ligue des Champions comme on ferme une boucle avec élégance. Ce soir-là, il n'a pas vengé une défaite, il a simplement confirmé sa légende. Parce que l'histoire de Paolo Maldini n'est pas une ascension, c'est un sacrifice discret. C'est le récit d'un homme qui a tout donné pour protéger les siens, pour tenir les murs de la maison Rossonera. Et quand cette maison a vacillé, les siens ont oublié. Le San Siro l'a sifflé, lui, le mur, le pilier, l'héritier est devenu légende. Mais lui n'a pas vacillé. Il n'a pas répondu, parce que ceux qui bâtissent ne crient pas, ils recommencent, ils pardonnent et ils restent. Maldini, c'est aussi l'histoire d'un homme qui porte un nom qui n'est pas le sien, mais celui de tous. Il avait aussi quelque chose de Michael Corleone, ce calme glacial, cette retenue qui disait plus que 1000 cris. Comme le fils de Vito, il n'avait pas demandé cette destinée. Mais il l'a prise sur ses épaules pour honorer le nom, pour tenir la maison. Paolo, c'est ce regard qui ne scie pas, même quand tout s'effondre autour. Cette capacité à contenir la tempête, à incarner l'autorité sans jamais hausser la voix, il n'était pas le parrain d'un clan, mais le patriarche d'une institution, obligé de prendre les décisions que personne ne voulait assumer. Et quand le Milan s'égarait, il restait debout, impassible, comme Michael dans le jardin silencieux de la fin, seul mais droit. Il portait ses croix comme d'autres leurs brassards, sans plainte. Il n'a jamais quitté Milan parce qu'on ne quitte pas un foyer qu'on a juré de défendre. Paolo Maldini n'est pas seulement le plus grand défenseur de l'histoire pour moi. Il est la preuve que l'on peut être immense sans hausser le ton. Il est la preuve que même dans l'ingratitude, on peut continuer à protéger. Comme un père qui tient sa maison, même quand les enfants claquent les portes, on ne mesure pas la grandeur d'un homme à ce qu'il gagne, mais à ce qu'il choisit de porter. Et Maldini a tout porté. Le poids d'un nom, le poids du Milan, le poids du silence. Il n'a pas cherché à être un héros, il l'est devenu en restant simplement là, à sa place, jusqu'au bout.
Mora et ses comptes sur Beurre FM.
Merci. Fellini, encore 8 et demi, ou encore la Dolce Vita. Exactement. La Strada, voilà, c'est ça. Hein, et encore, on a pu aller entendre Liz Gerard et la fameuse bande originale de Gladiator.
Exactement,
c'est ça.
No
Alzheimer.
Exactement.
C'est ça, c'est ça.
Je voulais un peu comparer les deux parce que même Maximus, il mange un peu d'ingratitude après avoir servi Marc Aurèle. Mais bon, c'est, on oublie souvent. Alors, c'est vrai que le débat pour moi, il est un peu flou. Alors, sur le plus grand défenseur de l'histoire. J'ai pas envie de donner de nom et de forcer les gens. Tout ce que j'ai à dire, c'est que pour moi, c'est Maldini et je respecte la vie de personne.
Ouais.
si les anciens voilà. qui nous écoutent veulent dire ouais. que c'est Franz Beckenbauer, si ouais. vous voulez. Mais bon, Maldini. C'est, comme a dit quand même Pirlo, c'est le seul défenseur avec les technique des plus grands milieux de terrain au monde. C'est vraiment pour moi le symbole de ce que vraiment. Peut faire
c'est
le
l'élégance
mieux l'Italie.
Du football.
Donc, ouais, sublime.
C'est incroyable. C'est
d'ailleurs, Maldini
incroyable.
Est le défenseur avec le plus d'apparitions dans le 11 de l'année de
ouais,
l'histoire.
Ouais.
Donc ça veut tout dire pour moi.
Ça reste fou. Avant la fin de cette émission, réaction en plateau avec Waheb, avec Serge, avec Brice et Ryan. Maldini.
Ah, tout à l'heure, je parlais d'émotion par rapport au football. Bah, c'est ça. C'est juste ça. Là, il m'a rappelé des souvenirs. Il m'a ramené loin, très très loin. Et en fait, c'est ça le football. C'est ça qu'on retient au final de, ouais. de ce qu'on voit sur le terrain.
Alors, on a Boula qui nous écoute. Hein. Boula, tu nous manques Boula. Fortement, le tonton Boula. Le meilleur défenseur central de tous les temps, Ramos. Voilà. Ah. Il te dit ça. C'est Boula.
Central.
C'est Boula.
Central.
Ouais.
Parce qu'il est trop jeune.
Il pouvait jouer dans l'axe.
Il est beaucoup trop jeune.
Ramos jouait dans l'axe et sur les côtés.
Exactement.
Et Maldini était ambidextre.
Bravo, Boula. Boula qui était de partout. Sur les grand soir de grands matchs mondiaux. Il est toujours là, Boula. On pense fortement à Boula. Vas-y, Waheb.
Maldini était un symbole contre la mafia au Milan. Il les a calés droit dans les yeux en leur disant qu'il n'allait pas se ranger vers eux.